il va nous expliquer comment nous fonctionnons entre nous sans le savoir.
Pourquoi la violence ? L'explication dite scientifique qu'on nous donne toujours, c'est les hommes sont violents parce qu'ils sont plus agressifs que les animaux. La notion d'agressivité me paraît elle-même très agressive, parce qu'elle distingue toujours entre l'agresseur et l'agressé. Or, nous savons très bien que les rapports humains ne sont pas du tout comme ça. Les rapports humains sont réciproques. Et la violence naît de façon insensible, si bien que la question est toujours « qui a commencé ?»
Prénom ?
René, Noël, Théophile.
Nom ?
Girard.
Date de naissance ?
Noël 1923, d'où son deuxième prénom. À Avignon, son père était conservateur du musée Calvet, puis du palais des papes. Il suivra d'ailleurs son exemple en intégrant, lui aussi, l'école des chartes.
En 1947, il lève l'ancre.
La violence à l'œuvre depuis la guerre l'a-t-elle détourné du vieux continent ? Il passe aux États-Unis où il enseignera toute sa vie la littérature dans plusieurs universités. La dernière en date, Stanford en Californie, où il attire son ami Michel Serres.
Mariage ?
Aux États-Unis, avec Martha McCullough.
Son premier grand livre.
Mensonges romantiques et vérités romanesques, 1961. Il observe comment les grands personnages de romans évoluent dans une mécanique de rapport qu'on trouve d'un auteur à l'autre, de Shakespeare à Proust. Alors cette mécanique de rapport se joue entre un sujet qui désire un objet, mais il y a aussi un modèle attiré par le même objet et ça fait obstacle et c'est la violence mimétique.
Il y a aussi deux autres livres importants.
La violence et le sacré, 1972, puis Des choses cachées. Depuis la fondation du monde, 1978. Alors, il creuse de plus en plus profondément et pose la théorie du bouc émissaire et même, plus généralement, une théorie du sacrifice et des religions.
L'apogée.
Les années 1970-1980, davantage peut-être dans le grand public qu'à l'université. Il entre à l'Académie française en 2005.
Sa mort.
Après plusieurs années d'éclipse de la mémoire, le 3 novembre 2015, ses obsèques ont lieu aux États-Unis au moment des attentats de Saint-Denis et de Paris. La coïncidence aurait pu provoquer un retour à sa pensée qui examine toujours la rapidité avec laquelle la violence peut monter à son paroxysme.
France Inter. Intelligence Service. Jean Lebrun.
Sachez, Monsieur Lebrun, que tout ce que vous dites est enregistré. Je vous écoute.
C'est peut-être Michel Serres, déjà cité, qui a déclenché l'engouement public pour Girard. Dans un article du Nouvel Observateur de 1978, il n'a d'ailleurs jamais cessé de le présenter comme un nouveau Darwin des sciences sociales, comme le découvreur d'une hypothèse particulièrement féconde pour l'interprétation de nos comportements. Nos comportements inexplicablement violents. Serres, recevant son ami, il a dit son frère, sous la coupole, en 2005, les rappels d'entrée dans son discours.
Des lambeaux pleins de sang et des membres affreux que des chiens dévorants se disputaient entre eux. Merci, monsieur, de nous avoir fait entendre en ces abois, en ces hennissements, en ces hurlements d'animaux enragés, nos propres vociférations. D'avoir dévoilé, en cette meute sanglante, en cet attelage emballé, en ce nœud de vipère, en ces bêtes acharnées, la violence abominable de nos sociétés. D'avoir révélé enfin en ces corps déchiquetés les victimes innocentes des lynchages que nous perpétrons.
C'était un très bon concert. Les gens dansaient, ça rigolait, enfin non, c'était très très bien. J'ai entendu donc des bruits de pétards, la lumière s'est allumée d'un coup, la lumière de la salle. Je me suis retourné, j'ai vu comme des flashs. Je me retourne vers la scène, plus personne sur scène. Le groupe avait disparu et je me suis dit... En fait, j'avais lu un article qui racontait que Daesh avait appelé à attaquer des salles de concert et ce genre de choses. Et je me suis dit, ça y est, on y est, quoi. Et là, j'ai entendu quelqu'un dire « Allongez-vous ». Donc on s'est tous allongés. Et j'étais à 3-4 mètres de la sortie de secours, qui est située à côté de la Seine. Donc j'ai commencé à ramper, j'ai entendu quelqu'un crier « Ouvrez cette putain de porte ». Là, j'ai rampé. Je suis arrivé au seuil de la porte, et à ce moment-là, j'arrivais plus à avancer du tout, quoi. Il y avait une pression sur mon dos assez énorme.
On était tous à plat ventre. Je voyais juste les gens, des visages blancs, des gens terrorisés. J'ai tout senti aussi beaucoup la poudre après les coups de feu. Et voilà. Mais voilà, j'ai entendu les rafales, senti la poudre et vu des visages effrayés. C'était horrible.
Novembre 2015, le Bataclan et en même temps l'enterrement de René Girard. Comme c'est étrange, dira Martha, son épouse. En France, ces images d'apocalypse et ici, en Californie, le rassemblement des amis au mémorial. La Californie. Girard jeune avait gardé un souvenir très sombre des années de guerre. Sans doute avait-il été terrifié. L'héroïsme militaire ne l'avait pas conduit. Il l'avait en aversion. Et dès 1947, donc, il choisit d'appareiller pour les États-Unis. Des États-Unis, dont Michel Serres, dans son discours de réception de 2005, ne veut retenir que les plus beaux traits. La maison de bois, tapissée de livres et traversée de lumière, les promenades tranquilles sur le campus, les aboiements des coyotes ne s'entendent que de très loin.
À la fin de la dernière guerre, vous avez émigré, terrifié comme je le fus, des folies criminelles de nations européennes. Pour mieux la penser sans doute, vous mettiez instinctivement de la distance entre votre corps et cette mortelle violence. Vous souvenez-vous des paquebots, de ces traversées bénies dont la durée ne coûtait au corps aucun décalage horaire? Vous souvenez-vous des blizzards de Buffalo, des hivers où nous cassions la glace sur la route, où les congères accumulées sur la neige des grands lacs nous interdisaient parfois de sortir de nos maisons? Vous souvenez-vous des automnes lumineux de Baltimore, d'étés indiens où les rouges du feuillage renvoient au ciel une clarté que son azur ne connaît pas?
Bon, ça, ce sont les États-Unis peut-être idéalisés. En réalité, les débuts pendant la guerre froide furent malaisés. Les voisins de Girard se demandaient « Mais c'est qui, ce Français en simka, peut-être un espion ?» Et la première université où il enseigna ne renouvela pas son contrat parce qu'il ne publiait pas assez. C'est que la violence déjà l'occupait, il en voyait partout la présence dans la littérature qu'il enseignait, mais il cherchait en vain la clé.
Les spécialistes inventent toutes sortes de théories sur la nature et l'origine de la discorde humaine. Il leur faut toujours un coupable. Si ce coupable n'est pas un être humain, alors ce doit être une idée, ou peut-être une substance chimique, c'est-à-dire quelque chose de totalement étranger à ce que nous croyons être nous-mêmes dans l'exercice de notre raison. Ils sont à la recherche d'un principe régissant l'agressivité des agressifs. Principe enfoui sans doute au fond de nos gènes. Ils interrogent nos hormones, ils invoquent Mars, Œdipe et l'inconscient, ils dénoncent le rôle répressif joué par les familles et diverses autres institutions sociales. Jamais ils ne font référence à l'essentiel.
Il y a ce dont tout le monde parle et ce qu'on ne sait pas dire. À savoir que nous sommes mus par le désir de ce qui appartient aux voisins. Pourtant, c'est évident. La publicité, par exemple, s'appuie sur ce ressort. Un produit enviable, c'est celui que possède l'autre. Et si, se demande Girard, les grands auteurs de la littérature étaient habités eux aussi, par cette question. Et il commence par Cervantes.
Molinera, qui passe sur la route à cette heure?
Oula, ça vient vers nous. Dios te salve, Maria, llena de gracia. Qui sait conjurer les apparitions?
Ferme les yeux, Molinera. Signe-toi deux fois, une à l'endroit, l'autre à l'envers. Celui qui revient, il repartira.
Tais-toi, muletier. Les chiens ont le poil hérissé. Que vois-tu, Molinera?
l'ombre d'un chandelier et celle d'une pastèque couchée sur le chemin du clair de lune. Elles glissent vers nous. Les voici presque devant le portail.
Ils approchent. Le plus gros se hisse vers le plus maigre.
Le plus grand se penche vers le plus court. Qui est-ce ?
Qui est-ce ?
Alors celui qui ressemble à une pastèque, c'est Sancho Panza. Et celui qui est droit comme un chandelier, c'est Don Quichotte. Don Quichotte, dont Girard dit qu'il vit dans l'imitation, apparaît le mot mimétisme, des héros des vieux romans de chevalerie.
Un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Faisait sa compagnie habituelle du Cid Ruy Diaz et du chevalier de l'ardente épée, de Bernard del Carpio et de Roland l'Enchanté, et tenait pour bon compagnon Renaud de Montauban, qui vola l'idole d'or de Mahomet.
Et voici la première interprétation de Girard.
Don Quichotte, c'est un homme qui n'est pas satisfait de son existence, qui rêve, n'est-ce pas, nous le savons tous, et qui voudrait devenir un chevalier errant. Et ce désir d'être un chevalier errant, il le tire de ses lectures. C'est un lecteur de cette mauvaise littérature qui était d'ailleurs condamnée un peu par tout le monde au Moyen-Âge et à la Renaissance. Et il prend les chevaliers errants pour modèle. Autrement dit, il les imite, même s'ils n'existent pas.
Donc là, il y a un mimétisme, mais c'est un mimétisme à l'égard du passé.
C'est un mimétisme à l'égard du passé et à l'égard de la fiction, au fond, parce que Amadis de Gaulle, qui est le modèle de Don Quichotte, n'existe pas. C'est une invention littéraire. La chevalerie a existé. Mais elle n'existait plus au XVIe siècle, donc Don Quichotte ne risque pas de rencontrer sur sa route.
Alors, on avance au pas de Rocinante dans les théories de Girard. Girard aime aussi beaucoup Shakespeare. Et si les pièces de Shakespeare étaient éclairées, elles aussi, par le jeu de l'imitation, les feux de l'envie, soit le songe d'une nuit d'été, une œuvre qu'entoure un insistant sentiment d'insécurité. Un amour relie Hermia et Démétrius. Démétrius, c'est l'objet qu'aime Hermia. Mais voilà, Hélène entre dans le jeu. Elle cherche le même objet.
Tiens, Hélène.
Hélène, où allez-vous, ma toute belle ?
Quoi ? Comment ? Elle m'appelle sa toute belle maintenant. Retire ce mot-là. Dans cette ville, tu es la seule à être belle. Oui, je le crie avec désespoir, tu es la seule à être belle, puisque Démétrios t'aime. Mais je hais tes yeux, qui sont plus charmants que les étoiles. Mais je hais ta voix, qui est plus adorable que le premier cri de l'alouette sur un champ de blé vert. Je donnerais la moitié de ma vie pour que ta beauté devienne à l'instant même contagieuse comme la lèpre ou la peste noire. Alors, m'approchant de toi, me remplissant de l'air que tu respires, j'attraperai tour à tour ta voix, ton regard et chacun de tes traits. Et soudain transfiguré par toi, je repartirai en courant vers Démétrios et je te l'arracherai grâce à ton propre sourire.
Fais attention, Hélène. Moi, je ne lui souris jamais.
Vous avez entendu se créer un triangle que chacun d'entre nous a expérimenté dans sa vie personnelle. Hélène a pris Hermia pour modèle. Hermia devient un obstacle dans sa propre recherche de Démétrios. Et la discorde va venir, chacune étant moins jalouse de l'autre que de la relation que l'autre entretient avec l'objet Démétrios. La tension va monter, d'abord insensiblement. De nouveau la voix de René Girard.
Les rapports humains sont réciproques et la violence naît de façon insensible, si bien que la question est toujours « qui a commencé ?» Et les parents savent très bien, devant leurs enfants, qu'on ne peut pas répondre à la question qui a commencé. Tout le monde commence en même temps, par des degrés insensibles. Alors, à quoi est-ce lié? Moi, je dis, c'est lié, évidemment, à la rivalité mimétique. À la rivalité mimétique, on réplique par davantage de rivalité mimétique, donc on va vers une crise des rapports.
Alors, vous donnez, de fait, par le désir mimétique, un sens à une violence insensée.
À une violence insensée. Si je vous tue, votre frère me tuera, mais ensuite mon frère à moi reprendra, etc. C'est infini. La violence chez l'homme devient infinie. Qu'est-ce qui peut interrompre cet infini?
Soit une autre pièce de Shakespeare maintenant, Jules César, dont Girard observe que l'assassinat du héros en occupe le centre, et c'est pas un hasard. Dans l'âme envieuse de Cassius a germé la conspiration que va rejoindre Brutus. Puis, par mimétisme, d'autres s'y rallient, la conjuration enfle. D'ailleurs, qu'est-ce que l'esprit partisan demande Girard, sinon le fait de choisir le même bouc émissaire que les voisins? Bouc émissaire, notion clé. Michel Serres, toujours lui, a comptabilisé dans l'histoire romaine de Tite-Live, outre celui de César, 42 meurtres originels. Rémus d'abord, mais aussi sans doute Romulus, dont on dit tout haut qu'il a été emporté aux cieux par une tempête, mais dont Tite-Live suggère tout bas qu'il aurait pu être mis en pièces comme un bouc émissaire par les sénateurs.
Nous, patriciens au marais de la Chèvre, assemblés en cercle concentrique autour du roi de Rome, nous, parmi les ténèbres d'un orage parcouru d'éclairs, nous, découpant Romulus en morceaux et la clarté revenue, fuyant honteux, chacun dissimulant dans le pli de sa toge un membre du chef dépecé.
Le bouc émissaire a cet avantage que lorsqu'on le tue, ben on oublie qu'on tue.
Notre action paraîtra trop sanguinaire, Caius Cassius. Trancher la tête et puis hacher les membres, une fureur de mort, la haine envieuse après. Car Antoine n'est qu'un membre de César. Soyons des sacrificateurs, non des bouchers, Caius. Nous nous dressons tous contre l'esprit de César, et dans l'esprit des hommes, il n'y a pas du sang. Oh, si nous pouvions nous emparer de l'esprit de César sans démembrer César. Mais hélas, César doit saigner. Alors, tendres amis, tuons-le hardiment, mais pas furieusement. Découpons-le comme un mets digne des dieux, sans le dépecer comme une carcasse bonne pour les chiens. Et que nos cœurs, comme le font des maîtres subtils, excitent leurs serviteurs à un acte de rage, puis feignent de les gronder. Ainsi notre entreprise paraîtra-t-elle nécessaire et pas envieuse. De cette façon, l'homme du commun verra dans notre geste une purge, non un meurtre.
La théorie de la violence mimétique et du bouc émissaire, eh bien, elle fonctionne chez les plus grands de la littérature, qu'ils en aient pleinement conscience ou pas. Girard lit ainsi Marcel Proust. Oui, parce que dès lors qu'on veut bien considérer le salon des Verdurins pour ce qu'il est, un champ de bataille, où le snobisme est l'arme redoutable qui permet d'éliminer les Béotiens, comme ce pauvre Sagnette, bonhomme de bonne composition, mais si lourd dans son expression.
Vous parlez dans Mensonge romantique de l'exemple de Sagnette, pauvre Sagnette ridiculisée par les Verdurins. Et vous citez Proust qui dit, parlant des Verdurins, autre foule, s'il en est.
Autre foule.
Autre foule. Foule oui, de gens à table, mais c'est une foule comme une autre.
Le salon est une foule.
Le salon est une foule. Et Proust dit, ils avaient l'air d'une bande d'anthropophages, chez qui une blessure faite à un homme blanc a réveillé le goût du sang. Cet instinct d'imitation et l'absence de courage gouvernent les sociétés comme les foules. C'est Proust qui parle, pas vous.
C'est Proust.
Et tout le monde rit de quelqu'un dont on voit se moquer, quitte à le vénérer 10 ans plus tard dans un cercle où il est admiré. C'est de la même façon, dit Proust, que le peuple chasse ou acclame les rois. Est-ce que le désir mimétique peut aussi coïncider
écoutez,
avec...
Écoutez, je suis heureux que vous citiez cette phrase. Si vous regardez, il n'y a pas un mot dans cette phrase qui ne soit la définition de la thèse mimétique dans son ensemble. C'est là où on voit que le génie anthropologique de Proust, n'est-ce pas, est quelque chose de sublime. Je ne peux pas relire cette phrase sans enthousiasme, en pensant que j'ai rien inventé du tout. Vous voyez, il suffit de faire l'exégèse de cette phrase d'un bout à l'autre, de prendre tous les mots, comme vous venez de dire, et toute la théorie mimétique est là.
Voilà, l'hypothèse est devenue thèse. Et nombreuses sont les vérifications possibles de cette théorie de la violence mimétique et du bouc émissaire. Alors, beaucoup d'amateurs de littérature y résistent, ils maintiennent que les œuvres adviennent d'elles-mêmes, résistent aux modélisations. Et Girard, lui, au contraire, s'émerveille que tant d'auteurs entrent dans son moule. Resvani, par exemple, qui a fait de si belles chansons pour Jeanne Moreau. Dans celle-ci, Jeanne Moreau dit sa jalousie face à sa rivale. Tu plais follement aux autres. Et ça se termine par l'envie de meurtre.
Aïe, c'est fou. Est-ce que ça m'énerve quand tu rajustes, sadique, au soleil, tes jartelles, roses. Devant mes copains, tu le sais bien, tu le sais bien. Tu plais follement aux autres. Tes yeux qui brillent, leur donnent des folles envies de t'écraser, de t'étouffer, de te piler d'amour, de t'émietter, de te croquer, tout comme un petit four, et de plier d'une main de fer ton petit corps de velours. Aïe, c'est fou, tu m'exaspères quand tu ondules, sadique, sur tes mules en cygne rose. Devant mes copains, tu le sais bien, tu plais follement aux autres. Moi tu me rends dingue avec tes agaceries. Il faut que je me retienne à deux mains pour pas t'ôter la vie, pour pas te casser comme un joujou plié sur mon genou. Oui, tu m'énerves à la folie, ah, tu es trop jolie. Aïe, c'est fou, est-ce que ça m'agace, j'ai mal aux dents, sadique, quand tu limes tes ongles roses. Devant mes copains, tu le sais bien, tu plais follement aux autres. Moi tu m'énerves avec tes chatteries. Ça me donne envie de t'esquicher, de te moudre d'amour, de te couper en petites rondelles comme un petit rôti. Et c'est comme ça qu'un de ces jours, je te ferai passer au four.
Monsieur Lebrun, la théorie de la rivalité mimétique et du bouc émissaire, issue d'un long travail de René Girard sur la littérature, peut s'appliquer dans d'autres domaines et peut se vérifier à l'autre bout du monde.
Je vous emmène chez les Manchots, dans l'archipel Crozet, une des terres australes françaises, à 2000 km de l'Antarctique. Un bateau français, le Marion Dufresne, qui porte le nom du découvreur du XVIIIe siècle, le dessert, rarement. Pas d'habitants humains permanents, mais des missions temporaires qui s'y succèdent.
Il y a 40 et 50.
Entre
40
et 50.
Et vers le nord, il doit y avoir aussi un peu moins. Entre 30 et 40.
Donc, je m'appelle Clara Morey. Je travaille pour le programme Ornitho et Écologie aussi.
Une journée ordinaire, c'est quoi?
Je pense qu'il n'y a pas de journée ordinaire. Chaque mois, il est très différent et on travaille sur plusieurs espèces d'oiseaux et des mammifères marins aussi.
Quel rapport avec Girard, direz-vous? Attendez un peu. Chaque mission est composée de groupes hétérogènes. Jeunes scientifiques, militaires, ouvriers venus de la Réunion voisine, enfin si on peut dire voisine. On raconte d'ailleurs qu'un de ces ouvriers, voyant l'île approcher, a refusé d'y débarquer. L'hiver est long, en effet, vécu dans l'entre-soi. Des respirations sont cependant aménagées. Expédition à l'extérieur de la base. Fête folklorique du milieu de l'hiver. Mais ça reste un vase clos. Bien intéressant pour observer les théories de Girard. L'ethnologue Alain Bacquier a participé à l'une de ces missions dont les chefs, notons-le, sont recrutés après une batterie de tests, ce qu'on nomme la psychologie polaire, ignore peut-être les hypothèses de Girard, mais c'est d'expérience qu'il peut y avoir des difficultés.
Les psychologues ont, dès le début, dès les premiers hivernages, constaté que dans un certain nombre de missions apparaissait un bouc émissaire. Il y a de soi que celui qui est responsable de tout, le chef, en tant que responsable de tout, peut être ce bouc émissaire-là. Donc, les tests le concernant sont plus échafaudés que ceux concernant les autres hivernants. Oui.
Cette psychologie polaire que vous regardez avec un petit peu de distance, Alain Bacquier, elle consiste à constater que les groupes sont hétérogènes.
Les groupes sont hétérogènes, oui. Après, est-ce que l'hétérogénéité du groupe, du point de vue des différences de ceux qu'il compose, est responsable ou non de l'apparition du bouc émissaire? Je ne crois pas que la différence entraîne le différent. Voilà.
Tout de même, vous-même, vous avez constaté que les militaires disaient des jeunes scientifiques, c'est pas la peine d'être écologiste pour vivre dans un tel bordel. Nous voulons de l'ordre. Et les jeunes scientifiques regardaient souvent avec distance les militaires, justement parce qu'ils apparaissaient comme des hommes d'ordre.
Oui, mais on peut prendre la conséquence pour la cause. Là, en l'occurrence, le fait d'accuser la catégorie adverse d'une différence qui serait susceptible de rendre impossible la vie ensemble relève plus de la conséquence que de la cause. La véritable cause, ce sont plutôt des rivalités qui ont lieu à l'intérieur même des catégories. Parce que la plupart des hivernants sont conduits à travailler en binôme, c'est-à-dire à travailler avec quelqu'un qui a de toute façon le même statut et appartient à la même catégorie. Or, c'est là qu'apparaissent les rivalités.
Alors, vous entendez qu'Alain Bacquier, ça se sent au grain particulier de sa voix, habite encore aujourd'hui une manière d'île. Alors il s'est souvenu, dans un livre, l'île de la Possession, de ses observations à Crozet. Binôme qui peut devenir une paire antagoniste. Oui, parce qu'il a été pris lui-même dans une relation mimétique avec le médecin de la mission. Il n'avait qu'un rôle apparemment secondaire, baquier de coiffeur notamment. Mais il y mettait de la fantaisie. Et se plaisant aux tâches d'animation, il se trouvait en concurrence avec son modèle, le médecin, pour plaire le mieux possible au public, l'objet. À l'époque, il avait seulement survolé les livres de Girard, et c'est bien plus tard, y venant sérieusement, qu'il a compris ce qui s'était produit réellement.
Je rentre dans le processus en rentrant en rivalité avec le médecin de la mission, qui arrive, la mission qui débute. Et en fait, nous formons, lui et moi, ce que Girard appelle des doubles, en concurrence sur l'aspect sciences humaines, puisque le médecin est celui qui va passer des tests psychologiques et mener des tests psychologiques dans le cadre d'études de sciences humaines sur place, quoi. Et bon, je crois qu'on était aussi en concurrence sur l'aspect animation de la mission, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. En tout cas, on était vraiment en rivaux et on se vouait une inimitié réciproque totale.
Par exemple.
Par exemple, au niveau d'inimitié.
Oui, des signes que vous notiez dans votre journal.
Je reprenne le livre et ouvre à la
page. Oui, allez-y. Oui, oui, on a le temps.
Ça doit être dans ce truc. Ma relation avec le médecin, tac, 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 tac. Alors voilà, dans mon journal de terrain, je le juge paternaliste, indélicat, lourd. Je considère qu'il cherche à me faire culpabiliser, qu'il me harcèle. Voilà, etc.
Vous dites etc., ouais. Mais en fait, vous ne vous quittiez pas.
Effectivement, c'est normal. J'essayais je pense qu'après ça passe beaucoup par du coup la séduction, enfin en gros quoi, ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que on essaye de ramener l'autre à son propre point de vue. On cherche pas à envenimer le conflit. On cherche à convaincre l'autre qu'il est le fautif, quoi. Et voilà. lorsque j'ai pris connaissance, en tout cas moi, de la théorie mimétique et entrevu quelle était effectivement la véritable raison de notre inimitié, qui était liée simplement à cette rivalité, que j'ai été le voir, il lui ait présenté ma manière de concevoir la chose, il en a parfaitement convenu.
Attendez, alors, vous êtes allé le voir en métropole?
Oui, tout à
fait. Comme ça, vous êtes pointé un jour?
Non, je pense qu'on était quand même toujours en lien, mais en tout cas, oui, effectivement, c'est à l'occasion d'une visite que je lui ai donnée que nous avons abordé ce point-là, ces rivalités et notre inimitié. Il a convenu du fait qu'il y avait effectivement cette rivalité qui était à l'origine de notre inimitié. Voilà.
Alors, quand il tenait là-bas à Crozet son journal intime, Baquier n'arrivait pas à en démêler les fils. La lecture de Girard, postérieurement, a tout éclairé, et notamment ce qui est advenu à la chef de mission elle-même. Tout est parti d'un conflit localisé au départ qui s'est peu à peu étendu.
Au nombre des rivalités qu'il y avait dans la mission dans laquelle je suis arrivé, il y en avait une entre technicien radio et le gérant postal, qui travaillait en binôme au sein du bureau des communications radio. Le gérant postal avait un comportement dans l'accueil qui n'était pas celui que certains hivernants auraient souhaité qu'il ait. Il s'en était plein et penché auprès de la chef de district qui est allé sermonner le gérant postal. Il s'est trouvé que le technicien radio a pris la défense de son rival. Il a été à son tour menacé par la chef du district de rapatriement.
Voilà, et le binôme qui s'est reconstitué ne peut pas être éliminé. C'est impossible pour les membres de la mission qui se coalisent et s'adressant à l'administrateur supérieur qui siège à la Réunion, obtiennent le départ de la chef de mission bouc émissaire. La deux lui offre même pour son anniversaire un tuyau PVC, car son départ forcé prendra la forme d'une évacuation sanitaire sur le Marion Dufresne. Alors comment la chef ostracisée a-t-elle vécu les semaines d'attente du bateau de rapatriement?
Elle a d'abord été parfaitement mise à l'écart. Une table dressée pour elle, seule, dans le réfectoire. Tous les hivernants mangent ensemble dans un réfectoire, dans un bâtiment qui s'appelle le bâtiment de la vie commune. Donc une table lui a été dressée rien que pour elle et plus personne ne lui parlait. Elle a fini tout simplement en quarantaine dans sa chambre. Donc complètement mise au ban de la société, la société locale, ce qui est terrible, hein, puisque là, il n'y a pas d'échappatoire dans un groupe clos. Autant un bouc émissaire dans une entreprise, dans une école, peut arriver à respirer en sortant du groupe qui la persécute ou le persécute. Mais là, en l'occurrence, c'est impossible de sortir du groupe. La seule issue, c'est de partir. Et c'est signé son échec.
Qu'est-ce qui s'est passé quand le bateau est arrivé et l'a rapatrié?
Il s'est passé deux choses. La première chose qui soit passée, c'est finalement lorsque le bateau est arrivé, finalement, elle a senti qu'elle était le pivot de la pacification des relations sociales au sein du groupe. Et elle avait raison, puisque à son départ, les rivalités ont repris là où elles en étaient, voire même pire. Et le groupe a tenté artificiellement de reprendre un second bouc émissaire, une nouvelle fois une femme.
Un bouc émissaire a-t-il été chassé que le groupe en prend un autre pour tenter de maintenir artificiellement son unité? Ce qui s'est produit en milieu confiné à Crozet, est-ce que ça ne se retrouve pas? C'est une question qui mérite d'être posée dans l'atmosphère des réseaux sociaux que n'a pas connu René Girard. Ce qui se vivait à couvert, tout d'un coup, explose dans les réseaux. Alors on parle à satiété de paroles libérées, mais les mots qu'elle cherche et qu'elle emploie s'organisent selon des récits dont on pourrait déceler les codes si on voulait les chercher. Et les récits sont dirigés contre des cibles. Alors Girard n'a pas eu le temps de prendre connaissance de ce que nous vivons présentement, mais il lui est arrivé de réfléchir au comportement des cibles. Les agresseurs sont dans un comportement mimétique, mais, dit-il, il peut arriver aux cibles de s'y retrouver aussi. « Je suis davantage victime qu'un autre », disent-elles alors, pour justifier les violences de rétorsion qu'elles appellent de leur vœu. Notre deuxième et dernier interlocuteur, c'est l'essayiste Gérard Leclerc. Ça lui rappelle des souvenirs.
J'ai passé un an de ma vie dans un village africain et il y avait encore des vieux ressorts. On parlait par exemple des mangeuses d'âmes. Et parfois, c'était très dangereux parce qu'on prenait comme coupable une pauvre femme que l'on imaginait à la source de tous les problèmes, de toutes les difficultés du village. Et on se concentrait sa haine sur cette femme. J'ai souvenir d'enfance aussi d'un village natal de mes parents où des vieilles dames étaient considérées comme des sorcières. Et c'est ça le bouc émissaire. C'est la découverte d'un personnage sur lequel on concentre toutes les accusations et on reporte tout le mal possible du groupe. Et c'est la mise à mort, la sortie de ce bouc émissaire qui va produire la réconciliation. La réconciliation du groupe.
Une enquête montre que près de 80% des personnes accusées de sorcellerie chez les Mossi sont des vieilles femmes. En fait, on vient de prononcer votre mort sociale. Non seulement vous êtes chassés du village, mais votre propre famille ne peut plus vous accueillir. Désormais, vous n'avez plus de lien social. Et dans la tradition, vous êtes voués à l'errance et à la mort.
Inter. Intelligence, service.
La seconde grande idée de René Girard a associé la violence et le sacré. Titre d'un de ses grands livres en 1971, Monsieur Lebrun.
Et oui, alors voici maintenant l'autre versant de René Girard, sa théorie générale des religions. Il y a des religions sacrificielles, d'autres ne le seraient-elles pas ? Gérard Leclerc.
Le sacrifice est lié nécessairement, je dirais ontologiquement, à la violence. Le sacrifice, c'est la médiation pour sortir de la violence. Et pour lui, c'est une notion forcément perverse. Ce mécanisme de désignation de la victime, c'est forcément pervers. Alors évidemment, de façon cynique, on peut dire qu'il y a une économie de la violence dans la mesure où on choisit une seule personne pour concentrer sa haine, ça peut éviter la guerre civile dans le groupe. C'est vrai, d'une certaine point de vue, c'est une économie de violence. Mais n'empêche que c'est d'une perversité totale. C'est Girard qui parle de la parole des hommes pervers. C'est ça qui, à mon sens, est nouveau et révolutionnaire chez Girard, c'est que contrairement à tous les anthropologues du sacré, il affirme cette ambiguïté fondamentale de cette notion, qu'il associe à un mécanisme de délivrance qui passe par une injustice fondamentale, par la mort du juste. En fait, c'est ça. Parce que cette victime qu'on déclare être mauvaise, perverse, etc., en fait, c'est injuste. C'est injuste qu'on va mettre à mort pour réconcilier une société avec elle-même.
Méfiance donc devant le mot sacré, où il y a sacrifice, l'autel consacré, où on tue. Alors, que les religions soient facteurs de violence, chacun le sait, mais Girard pose une autre question. Est-ce que les religions produisent un savoir sur la violence, voire, pour certaines d'entre elles, une thérapie de la violence. Un peu avant ses 40 ans, il s'est converti au catholicisme, et il a donc fréquenté de plus en plus la Bible. Premier moment, Genèse 22 dans l'Ancien Testament. Dieu dit à Abraham, « prends ton fils, ton unique, Isaac, que tu aimes. » Alors Abraham rassemble des bûches pour le sacrifice, en charge son fils, mais alors qu'il est parvenu au lieu sacré et qu'il a déjà la pierre à feu dans la main, il entend l'ange de Dieu qui lui dit « Abraham, n'étends pas la main sur ton fils. » C'est le premier moment fondateur. Puis voici le deuxième moment, ajoute Girard. Le Christ. Le Christ Dieu s'est fait semblable aux hommes, donc les hommes peuvent à leur tour s'approcher de lui. Et plutôt que le voisin qu'ils envient, ils peuvent imiter le Christ, qui leur donne la possibilité de grandir au point d'espérer devenir saints. Ben, c'est une révolution que beaucoup de croyants eux-mêmes n'ont pas fini de comprendre. Fixés qu'ils sont, dit Girard, un christianisme encore sacrificiel. Le témoignage de Gérard Leclerc.
Les traditionalistes ne cessent de mettre en avant le côté sacrificiel de la messe. Ce que je leur reproche, c'est le manque d'élucidation théologique de cette notion de sacrifice. Est-ce que le sacrifice du Christ s'inscrit dans la logique du bouc émissaire? C'est ça, quand même. Je crois pas. Pour moi, c'est monstrueux. Pourquoi? Parce que, on sait, alors, c'est là, peut-être, où on pourra se retrouver quand même avec les tradis, c'est que, parce que la victime, c'est la victime sainte. C'est la victime pure, c'est la victime sans tâche. Hein, c'est plus la victime émissaire, c'est le Christ qui s'avance librement. Librement vers la mort. J'aimerais retrouver une expression de l'Épître aux Hébreux, je crois. « Tu ne voulais ni holocauste ni sacrifice, alors j'ai dit, me voici. »
Oui, mais enfin, je suis désolé Gérard Leclerc, aussitôt né, le christianisme, il est empêtré dans la logique de la violence inévitable.
Ah ben, c'est certain.
Et alors, qu'est-ce qu'il dit de tout ça, de l'histoire de l'Église, Gérard?
Ah ben... Il est bien certain que dès lors que l'Église devient actrice de l'histoire, elle se trouve mêlée à toutes les passions humaines, à tous les conflits possibles et imaginables, à les luttes, pour le pouvoir, pour le prestige, etc. On ne peut pas échapper à la condition humaine, et, loin même de la politique, et à la violence sociale. Ceci dit, il y a quand même une différence, je crois, il y a quand même une différence chrétienne qui fait que, bon, il y a des moyens d'échapper à cela. Il y a des moyens d'échapper à cela et il y a quand même, malgré tous les reproches qu'on peut faire au christianisme, dans son histoire, etc., il y a quand même un ensemble de miracles, de sainteté, des choses admirables qui se sont produites.
Bon. Alors, sainteté, venons-en à la sainteté. La sainteté, c'est autre chose que le sacré tel qu'on l'a défini.
Absolument. La sainteté telle qu'elle ressort de la Bible nous met dans un autre registre, nous place dans un autre registre que la sacralité de toutes les religions, de toutes les religions du passé.
On a commencé à l'Académie française, on va finir à l'Académie française, lieu de prestige. René Girard a été amené à y faire l'éloge du père Carré, son prédécesseur, qui jamais ne portait évidemment l'habit vert et qui concevait son rôle dans l'illustre assemblée comme un rôle de serviteur humble. Et puis, René Girard était reçu, on s'en souvient, par Michel Serres ce jour de 2005.
Vous m'avez appris ceci qui a changé ma vie, de distinguer le saint du sacré, ni plus ni moins que le faux du vrai. Le saint se distingue du sacré. Le sacré tue, le saint pacifie. Non violente, la sainteté s'arrache à l'envie, aux jalousies, aux ambitions vers les grandeurs d'établissement,
asile du mimétisme, et ainsi nous délivre des rivalités dont l'exaspération conduit vers la violence du sacré. Le sacrifice dévaste, la sainteté enfante.
Les dernières années de la vie de René Girard ont été assombries par les infirmités. On avait commencé en évoquant sa mort en 2015, avec des images de terrorisme qui coïncidaient avec ce décès. Dernière image de terrorisme, Saint-Étienne-du-Rouvray, juillet 2016, un an après la disparition de Girard. Deux terroristes investissent l'église pendant une messe basse, fréquentée par presque personne. Et le prêtre, un vieillard, le père Hamel, est égorgé. Girard dirait à coup sûr, il entrera dans la communion des saints, mais la question pour l'avenir, c'est de savoir, je parle toujours comme lui, de quelle réserve dispose la sainteté face aux troupes de la violence. Remerciements à Gérard Leclerc et à Alain Bacquier qui a publié sur son expérience de Crozet aux éditions Petra, L'île de la possession. Les lectures, Grégoire Roqueplot. La prise de son, Yann Frécy. En studio, à la Maison de la Radio et de la Musique, Fabien Capel. Les agents d'intelligence service, Frédéric Martin et Franck Olivard. Et la réalisation, Audrey Ripouille. Dans quelques minutes, après le journal, vous retrouverez l'humeur vagabonde de Kathleen Evin.